Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui une interview numéro 3. Il y a tellement de choses à se dire. Pierre Polo, directeur de la maîtrise d'ouvrage Groupe I3F. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a vraiment, au cours de ces deux précédentes interviews, discuté de l'évolution du Groupe 3F, de l'insertion dans la ville, des bâtiments. On commence aujourd'hui, peu ou prou, à réfléchir d'une manière assez prégnante à ce qui est hors site, donc la standardisation, le fait de construire différemment. Vous l'avez évoqué la dernière fois, mais est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment les entreprises du bâtiment? Parce que j'ai quand même l'impression que les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre sont plus ou moins prêts, mais pas nécessairement les entreprises. Comment fait-on pour les aider?
Eh bien, justement, nous avons lancé chez Immobilière 3F en l'été dernier, donc en juin 2021 maintenant, un AMI. Un appel à manifestation d'intérêt pour justement mobiliser les constructeurs, les industriels qui travaillent sur le hors-site. Et donc on a eu la surprise d'avoir plus de 25 réponses d'industriels ou de constructeurs sur leur site. Donc il y a un terreau qui existe, il y a des exemples à l'étranger qui existent, il y a aujourd'hui un journal qui parle du hors-site, il y a la maison d'architecture avec qui on travaille qui parle du hors-site, et puis 3F s'est engagé suite à cet AMI dans un partenariat avec l'école d'architecture de Versailles, un partenariat de 3 ans, avec à la clé un contrat CIFRE, donc une personne, une doctorante qu'on va accueillir chez 3F pour travailler sur leur site avec le laboratoire de l'école de Versailles. Donc c'est un sujet, je pense, qui doit...
Donc c'est un sujet qui reste dans les pensées, donc il ne va pas rester seulement intellectuel. D'une manière pragmatique,
C'est effectivement, à travers cet AMI qu'on a lancé sur leur site, c'est de travailler avec les architectes, parce que les architectes, à mon sens, doivent être au cœur du dispositif s'ils veulent... Si on veut éviter la standardisation qu'on a pu connaître à une certaine époque, il faut vraiment que l'architecte soit au cœur du dispositif avec toutes les équipes de maîtrise d'œuvre.
Ça sonne très bien à mes oreilles.
Voilà, donc
de mettre en valeur les architectes pour une fois.
C'est important. Ils doivent, leur qualité d'approche spatiale, par la qualité du détail, puisque on construit pas un bâtiment comme on construit une voiture. La voiture, elle est, hors site sur toutes les routes du monde.
Bien sûr.
Une maison, un immeuble, ça peut être hors site, mais ça ne doit pas être hors sol. Donc il faut qu'on puisse vraiment s'intégrer sur tous les territoires sur lesquels on intervient. Et c'était la difficulté des premières expérimentations sur leur site, c'était effectivement d'être sans doute un peu trop déconnecté, rigide, trop répétitif, trop en tridimensionnel également, avec des systèmes modulaires qu'on venait empiler, avec quelquefois pas toujours la grâce qu'on souhaitait. Et il faut surtout éviter de tomber dans les...
Donc ça veut dire que c'est une mixité de produits, et surtout le fait d'avoir des panneaux du 2D ou des parties de bâtiments standardisés, et le reste un petit peu plus artisanal, on va dire.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a... Je crois qu'il y a de la place pour encore, évidemment, tous les métiers du bâtiment. Mais je pense qu'il y a une partie des éléments qui composent le bâtiment, que ce soit des éléments de façade, comme on voit maintenant fleurir sur énormément d'opérations, en ossature bois, avec des vêtures de tous ordres. On a des salles de bain préfabriquées qu'on peut amener sur les sites et qui sont d'une finition parfaite, qui évite toutes les réserves, qui évite 4 corps d'état qui interviennent sur une surface de 3
mètres carrés.
Donc le tridimensionnel peut avoir sa place, le bidimensionnel également. Le hors-site répond aussi à une réflexion sur les économies d'énergie, sur l'économie de l'eau en particulier. L'eau, c'est un élément quand même qui doit être pris
l'eau,
avec beaucoup de précautions.
L'eau, le sable, le ciment, etc.
Et bien sûr, tout ce qui est béton, mais souvent on oublie l'eau. L'eau, l'eau amène aussi du sale sur les chantiers. Donc construire sec, c'est effectivement aussi important. Ça permet de construire aussi plus vite, puisqu'on vient monter nos immeubles. On a fait une opération à Ris-Orangis avec Woodéum de 130 logements, où on a fait un chantier en 13 mois au lieu de le faire en 24 mois. Donc c'est aussi réduire les délais. Donc réduire les délais, c'est augmenter aussi les recettes pour un bailleur.
Alors ça veut dire aussi trouver un site très proche du chantier pour pouvoir faire l'entrepôt et voir la finition d'une partie du bâtiment. Comment fait-on pour travailler à la fois avec des industriels qui sont peut-être en province ou en banlieue éloignée, avoir ce chantier propre et sec, avoir le site pas loin, c'est quand même un autre métier, c'est pas nécessairement le vôtre hein.
Alors c'est un marché qu'on doit nous inciter à se mettre en place. Je pense que les entreprises de plus en plus s'engagent, hein, les majors, mais pas uniquement les majors. On travaille avec toutes les entreprises, des PME, des ETI et les majors évidemment. On travaille encore d'état séparé en entreprise générale et on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, c'est un enjeu qui devient important. On voit, parce qu'il y a aussi des exemples à l'étranger, hein, des exemples qui ont bien fonctionné, d'autres qui ont moins bien marché, mais on voit fleurir. Là, j'ai rencontré récemment un groupe en Allemagne qui travaille sur leur site, sur des usines qui sont en train d'être montées en Allemagne pour pouvoir produire un certain nombre de logements.
Mais est-ce que ça veut dire qu'en Allemagne, on met l'argent pour la technologie, les nouvelles machines, et qu'on le met aussi en France ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un investissement des industriels et voire une aide des collectivités ou des pouvoirs publics pour justement inciter ces industriels à avoir des machines numériques, des commandes numériques et un certain nombre de choses qui sont indispensables?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience est là. Certaines filières se sont développées. Il y a des filières bois, notamment, qui se sont développées en France, qui sont sans doute encore insuffisantes, mais il y a vraiment, aujourd'hui, une vraie prise de conscience. Donc, je pense que le marché est frémissant. Il n'est pas encore structuré. J'attends qu'il se mette en place, vraiment, pour qu'on puisse produire de façon un peu plus importante des opérations hors site. On a déjà, nous, lancé des opérations hors site.
Quelques beaux exemples. Vous nous en donnez quelques-uns ?
Le premier exemple que je vous ai cité, c'était l'opération qu'on a fait à Ris-Orangis avec Woodéum. Mais là, on a lancé une opération à Trilport. On a lancé une opération à Sèvres, également hors site. Donc, et sur des modèles qui sont différents, parce qu'on est sur du béton de chanvre dans un cas, on est sur de l'ossature bois dans d'autres cas. Donc, on a également fait une opération en préfa béton avec l'agence ANMA à Morsan-sur-Orge. Donc on a des opérations hors site qui sont de différentes factures avec différents matériaux, puisque effectivement on n'arrivera pas à tout construire.
C'est pas que de l'ossature.
Non, il faut sortir de la croyance.
Pas tellement d'usines de préfa béton en France quand même.
Il y en a pas beaucoup, mais je peux pas faire de
Portugal, Espagne, etc.
Mais il y en a également en France. On travaille avec une entreprise, alors je sais pas si j'ai le droit de la citer et de faire de la pub, mais sur une opération à Morsan, on l'a faite avec l'entreprise qui s'appelle CMEG et qui fait un béton de très belle qualité et qui est très proche de l'Île-de-France, par exemple.
Alors donc ça veut dire qu'il y a des possibles. On a quand même le sentiment d'être à la croisée des chemins. Est-ce que tous les élus sont capables aujourd'hui d'accepter la préfabrication? On a l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de réticence. Peut-être est-ce simplement le fait de ne pas connaître. Faut les envoyer, faut les balader à l'étranger.
Absolument. Il faut les balader sur, pas forcément à l'étranger, mais même en France, il y a des choses qui se font.
Ouais.
Mais absolument, il faut effectivement aller voir ce qui se fait ici ou là. Mais je crois que les élus ont une prise de conscience quand même avec, je dirais, le changement aussi générationnel des élus qui se rendent bien compte qu'il faut prendre à bras-le-corps, je dirais, ce changement climatique. Et la construction hors site fait partie des leviers pour prendre à bras-le-corps, effectivement, ces problématiques climatiques. Et on voit des élus à qui on propose...
Et l'acceptabilité peut-être de la population aussi.
Absolument.
Le fait que la filière sèche, évidemment, fait moins de nuisances.
Hein. Ben, effectivement, c'est une très bonne... un commentaire tout à fait pertinent, parce qu'on se rend bien compte qu'à travers la construction propre, sèche, qui évite les toupies de béton, les trottoirs salis, le bruit, etc. Les constructions sont bien plus appropriables, je dirais, par les habitants alentour. Et puis, c'est des chantiers qui sont moins longs aussi, donc des nuisances qui durent moins longtemps. Et puis, c'est des chantiers à regarder qui sont intéressants. Il suffit de regarder certains chantiers sur Paris-Rive-Gauche, où on voit fleurir donc des immeubles en filière métallique qui se construisent un peu comme des mécanos. Et je pense que c'est aussi une façon autre de voir...
C'est plutôt très anglo-saxon d'habitude.
C'est plus anglo-saxon, on le voit aux États-Unis, effectivement, dans les constructions bois, notamment aux États-Unis, on voit. Et c'est effectivement des chantiers qui donnent à voir le squelette des bâtiments, et c'est aussi une autre façon d'appréhender l'architecture.
Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le béton tel que nous le connaissons en France, et que ce soit de Henbic jusqu'à maintenant, en passant par tous les majors du bâtiment, il y a quand même cette histoire de la France avec le béton.
Mais le béton, c'est un très beau matériau que je ne mets pas de côté. Je pense que c'est un matériau qui a à la fois des qualités structurelles, des qualités plastiques qui sont vraiment très intéressantes. On a un pays de aussi où la pierre a beaucoup façonné, je dirais, nos villes. Et donc le béton, c'est finalement une pierre reconstituée. Et donc le béton a tout son intérêt pour... plein d'éléments architecturaux. Je parlais de l'entreprise tout à l'heure qui a fait l'opération en béton préfa, mais c'est structurellement nécessaire pour faire des infrastructures, nécessaire pour faire avoir de l'inertie. Donc le béton restera toujours présent, mais sans doute dans quantité moindre qui n'a été utilisé jusqu'à aujourd'hui.
En tout cas, on voit une ouverture énorme, que ce soit avec la nouvelle génération des élus, la nouvelle génération des architectes, la nouvelle génération des entreprises. Bon, le monde des possibles. Hein.
Absolument.
Soyons optimistes.
Absolument, et on a besoin que les architectes soient bien s'emparent de tout ça et soient vraiment au cœur du dispositif.
Merci Pierre Polo, merci à vous.
Merci.
À bientôt, chers auditeurs.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture.